Et bonsoir à tous, bienvenue sur Paris Central, enfin bonsoir. Bonjour plutôt, vu l'horaire assez tôt de ce match, pas la meilleure horaire, on va pas se mentir. Est-ce que les joueurs étaient en période de digestion après un petit déjeuner assez copieux? C'était une bonne question, mais bienvenue dans ce débrief de PSG Reims avec Gato, avec Milan, que vous avez l'habitude de, petit à petit de voir dans les débriefs, et également Soura, la nouvelle coqueluche et peut-être le Titi du mois chez Paris Central. Bonjour à tous dans le chat et bonjour à ceux qui sont avec nous sur le plateau. Comment ça va déjà pour commencer les gars?
Ça va tranquillement.
On est un dimanche, mais un dimanche où il n'y a pas de un beau match. Donc
Oui, un match qui allait poser question au niveau de son timing. Et bon, pas seulement en raison de l'horaire du dimanche à 13h, même si l'horaire n'est pas la plus agréable pour un match de foot, on ne va pas se mentir. Mais peut-être un match pas bon au niveau du timing, dans le sens où match post-Ligue des Champions. On sait que le PSG, après la Ligue des Champions, a souvent du mal en championnat, enfin en tout cas sous l'ère de QSI. Et justement, est-ce que ce match ne démontre pas justement qu'après un match de Ligue des Champions, où quand même tu as fait un bon match et tu as épuisé beaucoup d'énergie, est-ce que ce PSG ne s'est pas un petit peu relâché en quelque sorte suite à ce match de Ligue des Champions, Gato?
Pas forcément d'accord avec ça. Le PSG s'était déjà relâché avant, lorsqu'à Monaco la prestation n'était pas si bonne. Et c'est vrai que mardi on a puisé beaucoup de force parce qu'il y avait toujours le spectre des différentes remontées. Mais cet après-midi il y a eu un turnover et les gens n'ont pas su répondre présent. C'est pas forcément dû fêter d'avoir la Ligue des Champions. C'est aussi Reims qui a bien joué le coup.
Milan.
Ouais, je suis plutôt d'accord, ça fait 3 matchs qu'on fait match nul. Là en plus on est chez nous, donc on a y a pas de raison, mis à part que voilà, c'est un match après la Ligue des Champions, il y a du turnover, comme l'a dit Gato. Mais après il y a eu beaucoup d'erreurs, je trouve, aussi, de certains joueurs. On se prend un but catastrophique où t'as notre gardien, notre défenseur droit qui font des erreurs pas possibles. Et sur le deuxième but, c'est un beau but de Reims, mais encore une fois, je trouve que la défense est absente. Donc je trouve que ce match nul, il est entièrement de notre faute. Voilà.
Zoura.
C'était pas forcément un bon match aujourd'hui, notamment en seconde mi-temps, où ça s'est un petit peu endormi dans l'intensité et dans le sérieux qu'ont mis les joueurs. Techniquement aussi, il y a encore quelques petites lacunes. Il y a des mauvais choix qui ont été faits, notamment de la part des ailiers, pas forcément de lucidité dans le dernier geste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra revenir un peu plus tôt. Mais au moins on n'a pas concédé de défaite. Ça, c'est le plus important, parce que quand on voit le début du match, c'était un petit peu inquiétant. Et on aurait pu penser que le Paris Saint-Germain se serait retrouvé dans une situation un peu compliquée. Finalement, on prend le match nul. C'est un bon point, je trouve. C'est un bon point qu'on prend sur ce match-là. On a toujours 10 points d'avance sur le Stade Brestois, donc ça reste une chose importante. Je pense qu'il faut qu'on conserve cette avance de 10 points, ce gros matelas assez conséquent, parce qu'il va quand même y avoir des échéances importantes comme la Ligue des Champions et mercredi avec la Coupe de France qui va arriver avec la réception de l'OGC Nice, qui est en très mauvaise forme.
Alors justement, moi, pour conclure sur cette question, j'allais dire, le PSG a eu un peu de mal parce que oui, Gato a raison, pas mal de rotations, il faut le dire aussi. Et peut-être aussi beaucoup de difficultés au milieu de terrain. On l'a vu avec Warren Zaïre-Emery, avec Ugarte et avec Carlos Soler qui a eu beaucoup de mal à exister sur ce match. Ça m'amène justement à vous poser la deuxième question de ce live, justement. Deuxième question qui est, avec cette rotation, qui sont pour vous, et je dis bien sur ce match, bien entendu, pas sur l'ensemble de la saison, qui sont pour vous sur ce match les joueurs qui, entre guillemets, ont marqué des points dans la rotation et qui ceux qui n'ont pas réussi à saisir leur perche, entre guillemets? Gato.
Ceux qui n'ont pas réussi, ça va être très simple, c'est Carlos Soler. Soler qui était fantomatique et qui était moyen. À l'image de toute l'équipe aussi, il ne faut pas être forcément dur avec lui, mais là, ça fait plusieurs. Il était déjà l'année dernière, il n'était pas convaincant, là, c'est encore pas convaincant, il n'a pas su saisir sa chance. On joue contre le Stade de Reims, c'est pas non plus Monaco ou un Grand Lyon ou un Marseille qui arrive avec de l'envie. Donc Carlos Soler qui n'a pas su saisir. Je pense que aujourd'hui, Ugarte, il n'a pas eu le rayonnement qu'il avait eu en début de saison, même s'il n'était pas forcément bien accompagné. Après, Barcola aussi, qui des fois titulaire, des fois dans la rotation, tu vois qu'il peut sortir à tout moment. n'a pas su saisir non plus sa chance et de confirmer un statut de titulaire indiscutable. Donc tu gérais sur ces trois hommes. Maintenant, je pense que Gonzalo Ramos, dans un match compliqué comme ça, il a su marquer et faire marquer aussi contre son camp. Ça, par contre, j'ai apprécié. Lui a su saisir quand même une opportunité parce que c'était pas évident pour lui ces dernières semaines.
Bah, de toute façon, il y a lui, il y a Gonzalo Ramos qui a été décisif. Déjà, pour moi, il a mis un doublé. Certes, c'est d'Abdelhamid, mais pour moi, c'est un doublé de Gonzalo Ramos parce que dans la manière dont il coupe la trajectoire du ballon, il force Abdelhamid un petit peu à vouloir le bloquer. Et derrière, il y a ce but contre son camp, comme l'a dit Kato. Le deuxième but, c'est un vrai but de renard de surface. Le ballon lui tombe dans les pieds. Il contrôle très bien. Il va très vite pour pouvoir marquer ce but-là. Et en plus, c'était en extérieur du pied. Donc ça part très bien pour lui. C'est aussi un joueur-là qui a beaucoup décroché pour essayer d'épauler ses ailiers et essayer de venir aussi apporter des solutions pour les milieux de terrain. Donc là aussi, il a montré qu'il était aussi très habile techniquement et qu'il avait un petit peu cette ressource pour pouvoir redescendre un petit peu et aider ses coéquipiers. Et là, on a vraiment vu l'importance d'avoir un Gonzalo Ramos en tant que numéro 9, parce que dès qu'il touchait le ballon et qu'on essayait de le trouver, il y avait deux ou trois joueurs rémois qui venaient directement dessus pour pouvoir l'empêcher de pouvoir s'exprimer. Et il y a un truc qui pourrait être intéressant à développer sur les semaines et les mois à venir pour Luis Enrique, c'est d'essayer, on va dire, de développer une sorte de ligne de passe entre Beraldo et Gonzalo Ramos lorsqu'ils vont être alignés ensemble, parce qu'on peut voir que directement, il y en a beaucoup qui essaient de trouver Ramos en dos au but et essaient d'apporter des solutions. Mais en parlant de Beraldo, pareil, lui aussi défensivement, il arrête à être un peu plus solide ces derniers temps. Là, il a été placé à gauche, mais il y avait un petit peu de permutation avec Lucas Hernandez. Et surtout, la magnifique passe qu'il envoie pour Lee Kang-in qui va amener le premier ou le second but, ça montre que ce joueur-là est très intelligent, qu'il a une très belle vision de jeu et une bonne qualité de passe. Et ça, c'est important aussi pour la relance et pour pouvoir apporter un peu plus rapidement. Il est aussi capable de très bien se projeter. Après, dans les joueurs qui n'ont pas forcément pris l'assurance et l'importance de ce match-là, c'est Lee Kang-in. Lee Kang-in, c'est neutre, c'est pas assez. À part essayer de tenter pas mal de centres, dans le dernier geste, c'est brouillon, c'est pas assez, c'est pas ce qu'on veut de la part de Lee Kang-in. Bradley Barcola, pareil, j'étais un petit peu déçu de son match, il a fait des mauvais choix, il essayait souvent d'éliminer. Et Carlos Soler, en fait, tout simplement inexistant. Voilà, je l'ai pas vu du match, je savais pas qu'il était titulaire, je savais pas s'il était à droite ou au milieu de terrain, parce que c'était plutôt Lee Kang-in qui occupait son rôle-là. Donc pour le coup, voilà, et Keylor Navas, bon, je pense que lui, il est vraiment là pour prendre sa retraite le plus vite possible.
Milan ?
Non, moi, je vous trouve un peu dur avec Kang-in Lee. Certes, dans la finition, c'est brouillon, mais je trouve que vraiment, sur le terrain, et techniquement, il a été très bon cet après-midi. Mais après, est-ce qu'il a gagné des points ? Je pense pas. Bon, si on parle de joueurs qui ont gagné des points, franchement, Gonzalo Ramos, quel joueur fantastique. Le gars se fait insulter aussi, encore une fois, depuis le début de la saison. Et au final, il est quand même présent. Il fait pas d'interview comme d'autres buteurs qu'on a au Paris Saint-Germain. Il est très discret et il marque sur le terrain. Donc, c'est des gros points pris cet après-midi. Après, j'aimerais aussi parler de Warren. Franchement, je trouve que ça a été le seul milieu de terrain présent du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Physiquement, techniquement, il a été présent. Même, il est là défensivement, offensivement. Je trouvais très impressionnant sur ce match. Après, si je dois parler aussi de la charnière centrale, alors certes, Danilo, par moment, fait quelques petites erreurs, mais Beraldo Danilo, aujourd'hui, Danilo, il nous sauve plusieurs occasions dans notre surface. Et Beraldo, franchement, le gars est en confiance, commence vraiment à montrer de très belles choses avec le Paris Saint-Germain. On se dit même que voilà, Beraldo titulaire, c'est pas une connerie, hein, au Paris Saint-Germain. On voit bien Barcola prendre ses aises, alors pourquoi pas Beraldo. Et après, bon, les joueurs qui n'ont pas pris des points, moi je mettrais aussi en avant Achraf Hakimi, voilà, qui n'est pas en forme depuis la CAN, on le répète. J'ai trouvé encore trop juste. Un défenseur qui ne sait pas défendre, pour moi, il y a un problème. Alors même s'il joue dans un rôle de piston un peu plus avancé, il y a des moments où tu ne peux pas faire de telles erreurs au Paris Saint-Germain, surtout défensivement. Alors certes, sur le but, Keylor Navas est fautif, mais lui, il a encore plus pour moi quand tu joues de telles minutes. Après, Ugarte, je trouve ça très décevant de sa part. Franchement, il avait fait un très beau match. C'était contre le match juste avant de Ligue des Champions. Il avait fait un très, très bon match, solide. Aujourd'hui, un peu moins présent. Et il se prend aussi beaucoup de coups de physique et il ne reste pas debout. Donc, alors que c'est censé être insisté, censé rester debout. Et même être bon en défensivement. Et après, Carlos Soler, inexistant, franchement. Il y a des actions où il est dans la surface, il essaye de tirer, il n'arrive même pas le ballon. Franchement, c'est compliqué pour lui.
Pour revenir de mon côté sur les joueurs qui, selon moi, ont marqué des points et ceux qui n'ont pas su saisir leur chance, je vais plutôt le dire comme ça. Au niveau de ceux qui ont marqué des points, bah, je continue sur Lucas Beraldo, qui, bon, reste un jeune défenseur. Il faut, bah, comme le disait très très bien dans le live de hier Gatto et Basto, pas trop s'enflammer avec lui. C'est un joueur qui a fait une saison complète au Brésil, comme j'aime bien le dire depuis le début qu'il est arrivé. Donc attention à ne pas le cramer, à lui faire trop enchaîner les matchs. Cependant, Lucas Beraldo, pour ce qu'on lui donne dans l'axe, je précise bien dans l'axe, bah, il prend ce qu'il y a à prendre et pour le moment, bah, il montre qu'il a de vraies qualités à ce poste, et notamment bah, celle que recherche Luis Enrique, notamment bah, comme ça a été bien dit précédemment, le fait de casser des lignes avec des passes, sa vision de jeu, notamment bah, c'était sur le deuxième but pour être répondre Soura qui fait la passe à Lee Kang-in, le premier c'était le corner, et finalement on se rend compte que bah, Beraldo, avec la blessure de Marquinhos, alors je ne sais pas exactement quel type de blessure à Marquinhos, ni combien de temps il risque d'être sur le banc, mais tu peux justement créer une charnière assez inédite, je dis bien assez inédite, parce qu'il est très très rare de voir deux gauchers dans une défense centrale, pour la simple et bonne raison qu'il est rare de trouver deux gauchers qui sont complémentaires. Et là, pour le coup, avec Lucas Hernandez et Lucas Beraldo, bah, tu t'offres cette solution en cas de blessure de Marquinhos et d'absence de Pereira. Parce qu'il faut encore rappeler qu'il y a Skriniar et Kimpembe qui sont également blessés. Donc finalement, je me dis qu'un mec comme Lucas Beraldo, dans ce contexte-là, bah, il marque des points et il ne se gêne vraiment pas de montrer qu'il bah, n'est pas venu par hasard au Paris Saint-Germain et pas pour faire du tourisme. Autre joueur qui, pour moi, aurait pu marquer des points mais ne l'a pas fait, c'est Ugarte, dans le sens où Ugarte avait bien commencé son match. J'ai bien aimé son intervention défensive très, très, très maligne, hein, parce que s'il se rate, il y a pénalty. J'ai bien aimé également ses projections au début, mais malheureusement, bah, une baisse d'intensité petit à petit et énormément de ballons perdus. Ugarte, le deuxième joueur qui perd le plus de ballons ce soir derrière Lee Kang-in. Bon, la différence, c'est que Lee Kang-in tente beaucoup offensivement. Mais Ugarte, en tant que 6, d'être le deuxième joueur qui perd le plus de ballons, ça pose des problèmes. Surtout quand on voit les buts de Reims, où on voit que très très souvent, c'est lié à des pertes de balles, notamment au milieu de terrain. Bah, je me dis que malheureusement, Ugarte n'a pas su saisir sa perche. Mais plutôt que de m'éterniser sur qui a saisi ses perches et qui ne les a pas saisies, parce que je peux continuer ce débat avec quasiment tous les joueurs, je vous propose plutôt que l'on passe ensemble à la rubrique qui justement fait le plus plaisir aux personnes qui sont dans le chat, aussi bien qu'aux personnes qui sont sur le plateau. C'est qui vos top et flop? Vas-y,
Non, je sais pas, vu que s'il faut parler, voilà, on va parler de l'homme invisible. Je vais commencer par les flops, j'ai envie de commencer par les flops, on va commencer par l'homme invisible Carlos Soler. Je trouve ça très dommage, parce que franchement, moi, c'était un joueur que j'adorais avant le PSG, et je le retrouve toujours pas, même sous Luis Enrique, j'avais encore un petit espoir de le revoir comme il était en Liga, et c'est toujours pas le cas, franchement, même offensivement, où il arrivait justement en Espagne. Pourquoi t'arrives pas à jouer? Après, bon, Achraf Hakimi, encore une fois, franchement, je comprends toujours pas comment tu peux faire autant de mal alors que t'avais fait autant de bien au tout début de saison. Franchement, même encore une fois, quand Mbappé rentre, il essaye toujours de la mettre à Kylian, et je trouve ça, des fois, tu vois, même Lucien Riquet, il s'est énervé. Au bout d'un moment, il arrive dans la surface, il est côté droit, il est tout seul, il va tenter un centre Sungoboto pour Kylian Mbappé. Lucien Riquet, il dit, bah, tire, quoi, enfin, tente des frappes. Et je suis d'accord avec lui. Franchement, Hakimi, non, c'est décevant. Et après, je vais pas taper sur les doigts ni de Navas ni sur Ugarte, mais on va plutôt mettre Barcola, qui est décevant, même après ce match face à la Real Sociedad sur la mi-temps. Alors, c'est pas non plus un match catastrophique, hein, mais c'est un match décevant de la part de Barcola. Techniquement, il n'est pas présent, ses décalages, il ne les fait pas. Donc voilà, pour moi, il faut qu'il se remette en forme, il faut qu'il se remette dans une confiance. Après, bon, c'est pas. Faut pas mettre des plombs sur la comète. Voilà, Barcola, c'est un grand joueur et il arrivera à se remettre sur pied, je pense. Après, dans mes tops, Gonçalo Ramos, si on marque deux buts aujourd'hui, il est présent sur les deux buts. Le premier but, comme l'a dit Soura, voilà, pour moi, c'est lui. Il est là sur ce corner à presser un peu sur Abdelhamid, et Abdelhamid est obligé de d'aller sur ce ballon et de le mettre. Sur le deuxième but, un renard des surfaces. Très, très bon. Après, voilà, je vais mettre Beraldo parce que franchement, ça, techniquement, comment il arrive à relancer depuis quelques matchs, c'est impressionnant. Après, défensivement, il y a encore quelques points à améliorer, mais franchement, c'est un top joueur. Il a fait, comme tu l'as dit, Tonton, il a fait une saison au Brésil. Donc, franchement, il arrive quand même à être présent et n'est pas être trop fatigué. Alors que franchement, après une saison, c'est compliqué, hein, de tenir ces matchs. Et après, franchement, je vais mettre Lucas Hernandez, hein, toujours présent. Toujours là, un patron de la défense. Et même si tu as une bonne rentrée de Nuno Mendes qui techniquement arrive à venir, mais lui est toujours présent, quoi. Chaque match, il est là, quoi.
Gâteau ?
Ouais, non. Milan, il faut se calmer. Barcola, c'est pas un grand joueur.
Non, mais... C'est un bon
Voilà.
joueur,
Non,
mais
mais c'est
c'est.
important de le dire parce que si on ne le dit pas maintenant, on va commencer à faire des découpages. Lui, il a dit ceci, lui, il a dit ça. Donc, on le dit. Barcola n'est pas un grand joueur, c'est un bon joueur, c'est un bon potentiel qui grimpe. Aujourd'hui, je le mets en flop. Il n'a pas été bon. Ce n'est pas la première fois. Moi, j'en ai marre que le Paris Saint-Germain reste sur 3 matchs nuls en Ligue 1 d'affilée. Voilà, on ne gagne pas. Reims, l'autre fois, était nu en 2022. Ils étaient venus arracher, enfin en 2023, pardon, ils étaient venus arracher le nul. 2022, il me semble qu'ils sont venus gagner chez nous ou l'année d'avant. Donc, au bout d'un moment, on a le droit aussi contre le stade de Reims de venir leur poser, tenez, on vous met une valise et vous rentrez chez vous. Reims, c'est pas une grande équipe. Alors, oui, il y a Wisteel, on aime bien cette génération de coach avec Wisteel, avec les Régis Le Bris, avec des petits, des jeunes, les Lucas Elsner ou autres, très bien, c'est bien. Mais on ne doit pas avoir peur de Reims. Et dans les flops, je suis désolé, Beraldo aujourd'hui, on dit qu'il fait un bon match, la couverture sur les buts, au bout d'un moment, il faut se poser la question. Oui, c'est bien ce qu'il fait sur les dernières semaines, sur le match-là en tant que tel, malheureusement, Beraldo, la couverture, je mets dans les flops. Même si la relance est très bien, la couverture, je mets dans les flops. La base des bases de la défense, j'attends d'un défenseur qui défende. Kimi, la même chose. Navas, la même chose. Il y a plus de 4 joueurs dans les flops. Navas, le premier but, il est coupable dans le sens où il accompagne, mais il perturbe Hakimi un petit peu dans le sens où je prends, je prends pas.
Tu
Et
comprends où je voulais venir?
Hakimi, c'est catastrophique ce qu'il fait. Pourquoi tu reviens vers l'intérieur? Va à l'extérieur. Au pire, tu perds la balle vers un corner, vers une touche. C'est beaucoup moins grave. Ça, c'est le premier but. Et puis, le deuxième but, regardez Beraldo, son placement. Une passe qui traverse 3 lignes et la couverture. Non. Donc voilà. Dans mes tops, j'irais quand même mettre Gonzalo Ramos qui est parti faire chose intéressante en attaque dans le sens où il a perturbé clairement Younis Abdelhamid, l'international marocain, qui a concédé un but contre son camp. Et puis il a mis son but. On menait 2-1. Donc voilà. J'ai quand même aimé aussi Lucas Hernandez. Parce que bon, même si on dit que ouais, c'est un joueur expérimenté, etc., tout ça, c'est pas forcément facile d'être mis. Ah tiens, tu vas en centrale. Ah tiens, tu vas à gauche. Ah tiens, tu reviens en centrale. Tu repars à gauche. Je monte pas. Mais devant moi, une fois j'ai Mbappé, une fois j'ai Colomoini, une fois j'ai Barcola. C'est pas aussi évident pour lui. Parce que dans cette équipe-là, même s'il est arrivé cette année, j'ai l'impression qu'on compte énormément sur lui. Limite, c'est déjà un cadre. Donc voilà. J'ai quand même souligné que les rentrées de Mbappé et Colomani, les rentrées de
Ousmane
Mbappé
Dembélé.
et de Dembélé, voilà, merci Soura,
Oui, tu
avaient
m'as fait
plus
peur.
apporté. Mais bon, voilà, le match complètement, il n'est pas bon. Et puis on reste quand même sur 3 matchs nuls d'affilée en Ligue 1, malgré qu'il y ait de l'avance. Oui, la Ligue des Champions, c'est bien. Et en flop, malheureusement, je vais quand même aussi mettre Luis Enrique. Il nous a conduit du coin comme chose là. C'est un peu un bordel. Donc voilà, il faut arrêter ça. Et on va essayer de continuer tranquillement. Mais il y a de l'avance, oui. Il faut regagner des matchs en Ligue 1. C'est pas possible. Surtout à domicile, c'est pas la première fois. Même s'il y avait, on a gagné contre Lille, il y avait Brest qui nous a remonté. Il y a trop de trucs à chaque fois. Donc Luis Enrique, là, il est coupable. Et je mets dans mes flops. Voilà tout. Merci.
Soura.
Dans mes flops, je vais commencer avec Monsieur Achraf Hakimi et Keylor Navas. Pour moi, au-delà même des deux erreurs qui sont monumentalement horribles à voir, c'est une erreur de communication fondamentale. T'as Keylor Navas qui ne communique pas, qui ne dit rien, et t'as Hakimi qui reste comme un plot. Ah, je fais quoi? Toi, tu fais quoi? Je fais quoi? Toi, tu fais quoi? Et finalement, on a Hakimi qui fait quasiment la même erreur qu'il l'avait faite au match retour face au Borussia Dortmund, où en fait, il s'embourbe à l'intérieur dans l'axe et au final, il perd le ballon et ça donne une action de but. Et derrière, on concède un nouveau but. Et d'ailleurs, Achraf Hakimi, alors je veux bien que Mukiele, ça soit pas un joueur que tu apprécies parce que ceci et parce que cela, ça c'est privé, c'est pas mon problème. Mais au bout d'un moment, Luis Enrique, là aussi, c'est tes choix. C'est ton choix de titulariser un joueur qui n'est pas au niveau depuis un mois, depuis la fin de la CAN, depuis les huitièmes de finale. Tu as décidé de le titulariser, faut assumer. Aujourd'hui, il n'est pas au niveau, donc il faut faire avec d'autres joueurs, que ce soit Mukiele ou que ce soit un autre joueur du Paris Saint-Germain. Là, pour le moment, Hakimi n'a pas sa place en tant que titulaire. Maintenant, je parlais avec les ailiers, Lee Kang-in et Bradley Barcola. Alors oui, hein, Milan, c'est pas un grand joueur, Barrett, les Barcola. Et ces deux ailiers qui, aujourd'hui, dans leur choix, devant le but, en un contre un, pour prendre la profondeur, que des erreurs. Beaucoup trop d'erreurs de la part de ces ailiers. Et pas assez de centre. Lee Kang-in, si tu enlèves le fait qu'il a un bon pied gauche et qu'il centre pas mal dans le match, c'est vide. Tu retiens pas grand-chose de son match. C'est un joueur qui manque énormément de lucidité devant le but et qui n'a pas cette intelligence de jeu pour pouvoir faire évoluer son jeu et savoir comment pouvoir se diversifier devant le but. Et c'est pareil pour Bradley Barcola. Bradley Barcola, s'il prend pas la profondeur, c'est compliqué pour lui parce que c'est un joueur qui lui aussi n'a pas forcément cette palette un peu plus complète comme peut avoir un Ousmane Dembélé pour pouvoir apporter d'autres solutions. Pourquoi M. Bradley Barcola ne vient pas centrer un peu plus souvent pour servir M. Gonçalo Ramos? On reproche souvent à Luis Enrique de ne pas titulariser des ailiers lorsque Gonçalo Ramos est là, ou de mettre des ailiers mais que Gonçalo Ramos n'est pas là. Là, pour une fois qu'il fait les deux choses en même temps, on en a un qui centre un peu n'importe comment et un autre qui ne centre pas du tout parce que c'est quelqu'un qui veut souvent aller au duel en un contre un. Malheureusement, ces deux joueurs-là ont fait un mauvais match dans leur ensemble. Manuel Ugarte, c'est beaucoup trop irrégulier cette saison pour le prix qu'on a acheté. On doit en attendre beaucoup plus de lui. Carlos Soler, c'est pareil. Moi, je ne l'ai pas vu du match. Je pensais que c'était Lee Kang-in qui était un coup au milieu, un coup en tant qu'ailier droit. Donc là aussi, c'est un choix de vouloir à chaque fois mettre Carlos Soler et ça n'est pas payant. Certes, il a voulu faire tourner pour pouvoir donner la chance à d'autres joueurs. Mais si on prend dans l'ensemble, les joueurs qui ont été titularisés pour pouvoir montrer qu'ils ont leur place dans ce 11-là, n'ont pas répondu présent. Et ça, c'est un gros problème pour cet effectif-là au Paris Saint-Germain. Il faut que certains joueurs prennent leurs responsabilités. Quand même, on peut reprocher des choses à Lucho. Certains ne répondent pas présent. Keylor Navas, un coup, on nous dit que c'est Tenas le numéro 2. Un coup, on nous dit que c'est Navas le numéro 2. Là aussi, c'est pareil. Le premier match du Havre de Tenas, tout le monde était content et on avait loué ses qualités, il faut lui donner sa chance. Keylor Navas ne fait plus partie du projet du Paris Saint-Germain, il est en fin de contrat. Si tu fais la même chose pour Kylian Mbappé, tu dois faire la même chose pour Keylor Navas. C'est pas aucun, il n'y a pas à discuter, c'est la même chose. C'est deux joueurs qui ne seront plus au Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Alors si tu veux construire sans tes joueurs, eh ben, tu construis avec tes joueurs qui ont une contrat longue durée et qui sont concernés par le projet. Ça, c'est indéniable et ça ne doit pas bouger pour Luis Enrique. Mbappé sur le banc, Keylor Navas ne doit plus jouer. Ça, c'est clair et net. Il y a deux gardiens dans l'équipe, pas trois. Keylor Navas, on a vu que c'était très compliqué, même pour plonger et aller sur sa ligne, c'est beaucoup trop difficile pour lui aujourd'hui. Et je pense que le mieux pour lui, c'est d'aller soit au Costa Rica ou au Brésil, dans une toute autre destination. Maintenant, si on prend ce match dans son ensemble, il y a beaucoup trop de lacunes. La passe qui fracasse 15 lignes et que tout le monde est là comme un plot à voir le ballon traverser, ça manque de lucidité défensive pour pouvoir se dire on ne peut pas laisser un joueur prendre son temps, faire une passe, appuyer pour la donner à un joueur qui va être bien démarqué. L'appel, on le voit, le défenseur le voit, les joueurs le voient aussi. Ça manque un petit peu de prise de décision et d'initiative dans cette équipe-là aujourd'hui.
Et avant que je me permette de donner mes top et flop, je vois qu'on est quand même 526 en like, donc déjà merci à tous d'être présents parmi nous, mais je vois que l'on a seulement 46 likes. Vous n'allez pas me forcer à mettre une certaine image que vous n'aimez pas voir ici. Non, vous n'allez pas me forcer quand même. Non, je vous laisse rectifier ça. Je vous laisse rectifier ça, sinon je vais mettre une petite image que vous n'allez pas trop apprécier d'ici quelques minutes. Mais je ne vais pas être chien quand même. J'aime bien quand même teaser, mais j'ai quand même vous donner mes top et flop. Au niveau de mes top et flop, je vais être un peu plus rapide que mes camarades précédents quand même. Au niveau de mes top, compliqué. Il n'y en a pas énormément, mais je suis obligé de mettre Gonçalo Ramos pour son très très bon match. Chasseur de but, littéralement, sur ce match. Hein, on attendait, en l'absence de Kylian Mbappé, de Gonçalo Ramos, qu'il soit le buteur de cette équipe, et c'est ce qu'il a tout à fait rempli comme rôle. Certes, l'un des deux buts ne lui est pas attribué, parce que dévié par Younes Abdelhamid, et du coup, ça entraîne à contre son camp, mais quand on sait la qualité d'Younes Abdelhamid en Ligue 1, c'est pas évident de lui faire mettre un CSC. Et si tu ajoutes à ça le deuxième but de Gonçalo Ramos, tu vois littéralement sa palette de renard, parce que pour le coup, le deuxième but, c'est vraiment pas le genre de but que mettrait Kylian Mbappé, c'est pas forcément le genre de but qu'aurait mis Léo Messi quand il était chez nous, c'est littéralement un but de vrai renard de surface. Et c'est ce qu'on attendait d'un neuf l'an dernier qu'on n'avait pas avec Hugo Ekitike. Donc je me dis que justement, lui, non seulement il a répondu présent, il a su, entre guillemets, saisir sa perche, mais en plus, finalement, il fait le match qu'on attend de lui en tant que numéro 9, avec et sans le ballon. Donc lui a marqué des points et il est dans mes tops. Et en deuxième top, parce que finalement, non, quoique je peux peut-être en mettre un troisième. Non, j'en mets deux. Et mon deuxième, moi, étonnamment, à l'inverse de Gâteau, je vais mettre Lucas Beraldo, mais pas pour les mêmes raisons que lui. Dans le sens où, oui, défensivement, Beraldo, ça a été compliqué et c'est pas le seul. finalement, je ne pense pas que, à part Lucas Hernandez, personne n'a été très très bon défensivement. Hein. Je pense à Danilo qui s'est permis de faire des 1-2 avec les attaquants adverses et de les rattraper derrière pour faire style qu'il a fait une intervention défensive. Je pense à Achraf Hakimi qui, bon, bah, la qualité défensive, ça n'a jamais été son point fort. Et finalement, bah, seul Lucas Hernandez s'en est sorti dans cette défense. Et encore, quand je dis sorti, bah, je ne le mets pas dans mes tops, Lucas Hernandez, parce qu'il fait une prestation que j'attends de lui, en fait. Il ne fait pas une prestation qui sort du lot comme Gonçalo Ramos. Donc finalement, j'ai que deux tops, et au niveau de mes flops, bah, là, ça va être plus tendu. Il va falloir que je fasse un peu de place, mais il y en a deux qui vont être très très vite trouvés. Bah, je suis obligé de mettre la paire Keylor Navas et Achraf Hakimi. J'avais justement dit en off à Gâteau que oui, Achraf Hakimi était coupable sur le but, mais que Keylor Navas a fait tout à fait sa part de responsabilité de par son déplacement complètement incompréhensible du fait de son faux appel qui perturbe totalement Achraf Hakimi, qui ne sait pas s'il peut lui passer de la balle ou non. Ce que fait Achraf Hakimi derrière n'est pas beaucoup mieux, hein, je rassure, hein, il est tout aussi responsable que Keylor Navas sur le but, et pour moi, les deux méritent d'être chargés pour cette simple et bonne raison. Alors bien sûr, Keylor Navas, à sa décharge, n'a plus de temps de jeu, ne joue plus régulièrement dans un stade, et forcément, bah, ça se ressent quand tu le vois sur le terrain. Mais je rejoins Soura sur le fait que bah, la gestion du numéro 2 est super mal faite. Je peux entendre que Keylor Navas ait un certain passé au club, et que justement, bah, il mérite quand même certaines choses, et non pas non plus d'être mis à la cave. En revanche, bah, forcément, si de la même manière que Kylian Mbappé, tu sais que le joueur ne va pas prolonger et n'est pas inscrit à longue durée dans le projet, bah, je ne vois pas l'intérêt d'avoir recruté Arnaud Tenas sans l'envoyer en prêt, si c'est pour être justement bah, le gars qui chauffe la place, qui chauffe Keylor Navas. Donc, aucun intérêt de ce point de vue-là. Et forcément, en dernier, j'ai envie de mettre Carlos Soler. Pourquoi ? Bah, parce que bien que en dessous de tout, tu vois, je suis beaucoup plus dur avec un Hakimi et un Navas parce que bah, j'ai plus d'exigences envers eux qu'avec un Carlos Soler. Mais Carlos Soler, il faut le dire, bah, littéralement invisible, beaucoup de mal à exister dans ce match. Et finalement, à part quand il joue au poste d'arrière droit, bah, on se dit que c'est très 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 difficile pour Carlos Soler. Problème, il n'est pas arrière droit. Là, il a encore joué à son poste. Et quand il joue à son poste de prédilection au Paris Saint-Germain, bah, ça ne marche pas. Donc, ouais, j'ai fait mes trois flops et j'ai quand même été assez rapide. Et ça me permet justement bah, de sélectionner les questions du chat que j'avais trouvées pertinentes pour ce live. Et la première a été justement, bah, je vais la poser un peu à mon ami Soura, qui avait un peu lancé le débat. Pourquoi Navas joue et pourquoi Tenas n'a plus de temps de jeu ? C'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible, mais du coup, Soura, je te laisse répondre à cette question.
Bah, franchement, moi, je pense que, comme disait Gâteau assez souvent, c'est un peu la loi des statuts qui prime pour Keylor Navas et qui fait un peu tâche à Tenas. Mais moi, forcément, en fait, je ne comprends pas forcément le choix de Luis Enrique, parce que d'un coup, tu as un gardien qui correspond à ton style de jeu, à ta philosophie de jeu. Tu le titularises face au Havre lorsque Donnarumma est suspendu après son carton rouge qu'il avait subi. Et là, aujourd'hui, tu fais jouer Keylor Navas qui, on ne savait pas s'il était toujours en forme, s'il était toujours à 100%. Derrière, là, tu ne titularises pas Tenas, depuis un long moment. Peut-être que ça se trouve, face à Nice, ce sera Donnarumma et pas Tenas. Donc, la gestion des gardiens, à part pour le numéro 1, et même pour le numéro 1 sur ces dernières années qu'on a eu avec le Paris Saint-Germain, elle est toujours floue. Elle est toujours ambivalente. Tu n'as pas forcément de réelle politique avec les gardiens. Tu ne sais pas qui est le numéro 1, tu ne sais pas qui est le numéro 2 et tu ne sais pas qui est le numéro 3. La saison dernière, on en avait un et deux. C'était Donnarumma et Sergio Rico. Les deux s'entendaient très bien. Ils étaient très heureux. Ou même quand ça avait Navas et Sergio Rico aussi. Les deux s'entendaient très bien. Malheureusement, tu as rajouté Donnarumma dans l'équation et tu as fait voler en éclats toute l'entente qu'il y avait autour de ces gardiens-là. Donc aujourd'hui, tu achètes un gardien. Là aussi, c'est le Paris Saint-Germain qui est fautif. Tu achètes Arnaud Tenas, mais tu as déjà un deuxième gardien. Et avant qu'il lui arrive des choses assez graves à Sergio Rico, et on espère que ça va mieux pour lui, tu avais trois gardiens dans ton effectif. C'est-à-dire que tu achètes quatre gardiens. Tu as quatre gardiens dans ton club.
Attends, alors certes, le problème... Non, t'en as plus. T'as oublié le
enfin, Tellier. Enfin, cinq avec Lucas Ladavi.
Et la Vallée aussi qui est envoyée en prêt à Orléans. Et tous les jeunes aussi qui n'ont pas encore signé leur contrat pro. Le PSG n'était pas loin de 8 ou 9 gardiens.
Donc, le Tellier, d'ailleurs, pour moi, c'est un joueur qui ne sert à rien dans cet effectif. Il faut arrêter
si,
avec ce truc
de la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Eh ben si, t'es obligé d'avoir un nombre limite. T'es obligé d'avoir 6 joueurs formés au club en Ligue des Champions. Ou 4.
On n'en a pas. On n'en a
c'est
pas assez.
4 formés au club et 6 en France. Donc c'est pour ça que tu avais des Kurzawa dans l'effectif, c'est pour ça que tu as du Le Tellier dans l'effectif. À un moment, il faut les remplacer, ces joueurs. Il faut les remplacer par des joueurs qui sont soit formés au PSG, soit formés en France. Sauf qu'on fait ni l'un ni l'autre.
Ouais, mais tu vois, si tu te retrouves avec quatre gardiens dans ton effectif, alors que finalement, tu ne sais vraiment pas où est-ce que tu vas, tu décides d'installer Donnarumma numéro 1. Et finalement, quand on dit, bon, Luis, c'est qui le numéro 2? Ah, je ne sais pas. Bon, ok, Sergio Rico, il lui arrivait quelque chose de grave. On va le mettre de côté, on va le laisser tendre, se remettre d'aplomb. Maintenant, c'est qui le numéro 2? Bah non, c'était Nas. Ok, parce que Keylor Navas, il est blessé. Bon, bah Keylor Navas, il revient bien. C'est qui le numéro 2? Ah bah en fait, non, ça va être Navas sur ce match-là. Après, ça va être. C'est une situation horrible et franchement fatigante avec ce Paris Saint-Germain-là. T'es un Arnaud Tenas, on te dit tu seras numéro 2 parce que Keylor Navas ne sera pas forcément présent sur la durée, il est un peu blessé. Et finalement, tu vois qu'il prend ta place. Donc, cette situation-là, elle doit être réglée à la fin de la saison. On doit avoir deux gardiens maximum. Le Télé doit être le troisième gardien et pas autrement. Ou soit tu essayes de trouver une solution avec le Télé, tu lui dis, toi, tu seras avec le 19 et on va faire revenir un jeune qui, lui, sera le troisième gardien. Mais pour le coup, le club doit absolument régler cette situation.
Juste si je peux rajouter quelque chose, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de cas. À l'époque où il y a eu Areola Trapp et même Areola Buffon, c'était la même chose. Donc le PSG, ils ont du mal avec les gardiens, on a l'impression.
Alors, prochaine question, justement, pour aller plus vite. Gâteau, elle est pour toi la prochaine, justement. Mounir Zain qui nous dit « Hakimi a bien joué, je vous trouve assez dur et exigeant. » Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gâteau? Ça, Soura, t'as eu ton temps de parole. Gâteau, vas-y.
Hakimi a bien joué. Il a bien joué où? Parce qu'en fait, je sais pas si toi, ce que t'attends d'Hakimi, qui c'est qui posait la question? C'est Mounir. Ouais, c'est Mounir. T'attends peu de choses d'Hakimi, c'est toi. Moi, Hakimi, je considère un gars qui a gagné une Champions League, un gars qui a fait de très bonnes performances à l'Inter, qui a gagné un championnat où l'Inter il galérait à gagner un championnat, qui a fait des trucs intéressants du côté de Dortmund. J'attends au Paris Saint-Germain qu'Hakimi soit un leader. Un leader, ça fait 3 ans aussi qu'il est là, enfin c'est sa 3e saison. Hakimi, il porte quand même le brassard dès lorsqu'il y a des remplacements. Moi, j'attends beaucoup d'Hakimi. Et c'est un mec qui physiquement est au-dessus de la moyenne, techniquement qui est au-dessus de la moyenne. J'attends beaucoup de choses d'Achraf Hakimi. Et aujourd'hui, on a le droit d'être déçu. Et on va pas parler des salaires. C'est un gars qui a 1 million du mois. On me dit d'arrêter de parler des salaires, etc. Ah oui, mais 1 million du mois, j'attends aussi qu'il bosse bien. Tout simplement. Et les prestations d'Hakimi depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations, elles sont décevantes. Et on a le droit de le dire. Et tout comme d'autres joueurs, s'ils sont mauvais, on va le dire. Hakimi, je suis désolé, on a l'impression qu'il a la tête ailleurs. Après, situation contractuelle ou pas, je ne sais pas. En tout cas, sur le terrain, ce qui est sûr, c'est qu'il ne triche pas. Au moins, ça, on ne peut pas lui reprocher. Il se donne toujours à fond. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, Achraf Hakimi, il n'a pas été bon. Ne serait-ce que sur le but pris et puis aussi dans l'anticipation. Après, peut-être que la paire Beraldo puis Danilo, ça ne l'arrange pas, etc. Et puis, le fait est qu'il n'ait pas Dembélé devant lui dès le départ, ça peut aussi le perturber. Certes, c'est quelque chose, mais Achraf Hakimi, c'est lui aussi qui doit emmener. Moi, quand je coche dans le 11, on doit mettre Achraf Hakimi, il est dans les premiers noms. La preuve, on a du mal à lui trouver un remplaçant. Limite, Mukele, il n'est jamais là. Donc oui, moi, j'attends beaucoup d'Hakimi, parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Et donc, dès lors qu'il fait un match, ne serait-ce que moyen, on va le dire, parce que c'est un homme qui nous a habitués à bien mieux. Et ces deux premières saisons, elles étaient, selon moi, là c'est que moi, c'est pas Paris Central ou quoi, selon moi, Achraf Hakimi, les deux premières saisons, elles étaient décevantes parce que ça s'explique, il y avait des problèmes avec les Sud-Américains, il y avait des événements, des histoires de Coupe du Monde, etc. Machin. Là, la première demi-saison, elle est excellente, mais là, on prend le chemin d'une deuxième demi-saison qui risque de pas être bonne, en tout cas depuis la Coupe d'Afrique des Nations, depuis son retour de Côte d'Ivoire, c'est moyen. C'est très moyen, c'est pas terrible. Même en Ligue des Champions, il a connu des difficultés. Donc, c'est pas ne serait-ce que le match d'aujourd'hui. Je sais pas ce que tu as trouvé de bon aujourd'hui. Il faudra peut-être que tu nous expliques dans un deuxième commentaire. Parce que moi, j'attends beaucoup de cet homme-là. C'est quelqu'un qui doit emmener, c'est quelqu'un qui doit être responsabilisé dans son poste d'arrière droit. Et j'estime que cet homme-là, avec ses qualités, doit pouvoir nous faire 15 GA par saison. Au Paris Saint-Germain, en tout cas.
Voilà. Et puis même, pour aller plus vite, et genre, pourquoi développer 30 ans alors qu'il y a juste à dire que si on est exigeant avec Achraf Hakimi, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas la même attente envers lui qu'avec Carlos Soler. Tu doutes bien que si j'ai la même attente un jour envers Hakimi et Carlos Soler, inquiète-toi pour Achraf Hakimi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est logique qu'on ait plus. C'est logique ici qu'on soit plus dur avec des mecs comme Hakimi, comme Mbappé, comme Dembélé, des mecs qui sont censés être au-dessus du lot, qui ont plus de qualité que les autres. Si on se met, entre guillemets, avoir l'exigence envers Hakimi qu'on a envers Carlos Soler, ça va être compliqué. Ou alors, on a baissé d'un sacré standing concernant Achraf Hakimi, et franchement, je suis désolé pour lui, parce que c'est pas cool. Mais à un moment, voilà, je pense que je rejoins Gato, c'est normal que quand t'as un joueur avec autant de qualité, bah, t'en attends plus que pour les autres. C'est tout à fait logique. Et oui, on sera dur avec Hakimi si on estime qu'il n'est pas au niveau. Et justement, bah, tiens, je te pose la question, Milan. Pour toi, est-ce qu'il est considéré comme formé au PSG ou pas, Xavi Simons, vu qu'on parle de quota de Ligue des Champions quand on parlait de Letellier?
Oula, ça c'est pas une question, ça, c'est une question compliquée, mais je crois que non.
Si.
Si, il a joué avec les moins de 18. Mais après, bon, pour l'instant, est-ce que c'est une question qu'on a à se poser pour le moment? On a quand même une fin de saison à finir. Simons, pour l'instant, on se dit qu'il va venir, mais il y a toujours un flou autour de Xavi Simons, même si j'ai hâte de le voir. Enfin, j'espère qu'il va venir au Paris Saint-Germain parce que. Il a fait un très très bon match face au Real de Madrid. Franchement.
Real Madrid, chef. Pas Real
Madrid. Real Madrid, Real Madrid.
Et tu voulais dire une
deuxième. C'est pas mon jour aujourd'hui, je crois.
Et tu voulais dire une deuxième bonne mi-temps, je crois. Pas un très bon match, hein, parce que la première mi-temps.
Ouais, mais en tout cas, moi qui ai vu. Ouais, j'ai vu une grosse partie de la deuxième mi-temps. J'ai trouvé techniquement qu'il était bon. Après, voilà, à voir comment il va être placé dans ce Paris Saint-Germain là, à voir les recrues qu'on va avoir dans ce Paris Saint-Germain là. Mais effectivement, si ça peut être un joueur qui vient combler nos places pour la Ligue des Champions, bah c'est une très bonne chose. C'est un très bon joueur, Xavi Simons. Mais après, voilà, il faut pas parler de Xavi Simons. On a encore une saison, on a encore des galères avec certains joueurs comme Achraf Hakimi, comme Colomwani, on a une saison à finir, on a encore partout présent dans chaque compétition, et il faut finir cette saison comme il le faut avec les joueurs qu'on a.
Soura, qu'est-ce que t'en penses de toi? Xavi, c'est pas non plus le Messi.
Xavi Simons?
Ouais. Bah oui, pas de Xavi Hernandez. Hein.
Ouais, c'est vrai. Mais j'ai un peu l'impression qu'il a pas tort, en vrai. On attend un petit peu Xavi Simons comme l'oracle. Comme celui qui va délivrer le Paris Saint-Germain sur certains aspects du jeu, notamment en faux numéro 9, même si pour moi, je pense sincèrement que Xavi Simons a l'opportunité de pouvoir s'imposer au Paris Saint-Germain et de donner de réelles satisfactions dans l'entrejeu parisien, que ce soit en tant que faux numéro 9 ou sur l'aile gauche. À ses débuts, lorsqu'il était en U19, on le voyait comme un relayeur, comme un 8. Finalement, quand il part au PSV, c'est un milieu offensif. Et aujourd'hui, quand il est au PSV, tu as l'impression de voir un 9,5 ailier sur certains moments et sur certains matchs. Donc, on l'attend un peu comme un Messi. Je trouve qu'il ne faut pas lui mettre forcément énormément de pression et pas lui mettre beaucoup d'attentes autour de lui. Parce que déjà, c'est un joueur qui a eu souvent beaucoup de pression. À l'âge de 13 ans, tout le monde savait qui c'était. Et je pense que ce n'est pas forcément facile pour lui. Il essaye de progresser à son rythme petit à petit. Il a fait des très bons choix de carrière. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde de faire des choix qui peuvent être vraiment bénéfiques pour lui et pour la suite de sa carrière. Il a eu deux très bons coachs, surtout Van Nistelrooy et Jesse March, si je ne me trompe pas. Marco Rose.
C'est Marco Rose.
Ouais, Marco Rose, voilà.
Il est viré, ça fait plus d'un an et demi. Hein.
Ouais, ce qui n'était pas terrible, mais il a eu deux très bons coachs, Marco Rose et Monsieur Van Nistelrooy. Donc, il a progressé, il prend son temps. Avec Luis Enrique, je pense que ça peut aussi faire des choses très intéressantes, mais pour le moment, ce n'est pas forcément le joueur sur qui j'attendrai forcément les 40 buts que met Mbappé en une saison. Non, c'est un joueur que j'attends qui fera des différences, qui va être décisif et qui va pouvoir réellement s'imposer au Paris Saint-Germain et progresser. Parce qu'au Paris Saint-Germain aussi, il faut qu'on ait des joueurs qui progressent dans cette équipe-là et dans ce club, et pas qu'ils n'atteignent un certain plafond de verre.
C'est ça. Et pour répondre à Lemos, bah, c'est un meneur de jeu. Si tu vois, à Leipzig, ils ont joué en 4-3-3, là, ils jouent en 4-2-2-2. Quand ils jouent en 4-3-3, ils jouaient comme milieu le plus offensif des trois. Et maintenant qu'ils jouent en 4-2-2-2, il est comme double milieu offensif avec Dani Olmo. Et si tu veux, les deux intervertissent énormément. Ça veut dire que Xavi Simons peut être autant à gauche qu'à droite pendant le match et Dani Olmo de la même manière.
Mais après, il ne faut pas que les gens s'attendent à ce que ça soit le remplaçant d'Mbappé. Hein.
Non. Après, tu vois, il faut rester mesuré. Xavi Simons, pour moi, c'est un meneur de jeu. Mais si si tu me poses la question, je préfère avoir un mec comme Xavi Simons pour les quotas de former au club et en France pour la Ligue des Champions que les Kurzawa et le Tellier. Ça, c'est une certitude.
Ah oui, c'est sûr.
Déjà, si tu peux te permettre d'avoir un mec comme Xavi Simons pour tes critères Ligue des Champions, c'est bien. Si tu as en plus Zaïre Emery, tant mieux. Tu vois, genre, tu remplaces les anciens qui n'étaient pas très très bons par des joueurs d'un niveau un peu supérieur. Est-ce que cependant, il faut dérouler le tapis rouge à Xavi Simons, se mettre à genoux et dire « Amen » Non. Pour moi, tu vois, il faut prendre le temps. Xavi Simons, il doit être en concurrence comme les autres milieux de terrain l'année prochaine s'il vient. Et j'ajouterais même qu'il faut recruter un autre meneur de jeu. Parce que si jamais ton Xavi Simons il se pète, est-ce que tu laisses Asensio ou Soler ou Vitinha ou Arendse Emery être meneur de jeu longue durée? Non, en sachant que ce n'est pas les mêmes profils. Donc si tu prends et Xavi Simons et Bernardo, tu règles le problème. Mais pour moi, il faut en prendre deux. Il ne faut pas en prendre qu'un. Il ne faut pas se dire Xavi Simons, tu le prends, tous à genoux, c'est le Messi, on est refait. Il peut se rater et il ne faut pas non plus faire les mêmes erreurs que précédemment en donnant trop jeunes les clés à certains et trop les starifier. Mais voilà, je crois que... Alors, je regarde si on a des dernières questions que j'avais sélectionnées dans le chat et il me semble que non, on a quand même fait finalement le tour, à part si vous voulez justement rajouter quelque chose. Soura, gâteau.
Moi, j'en avais déjà parlé hier. Donc,
Oui, toi, c'est vrai que tu as abordé le sujet, donc j'en venais vraiment j'en vite.
Donc voilà.
Après, sur ce que tu as dit par rapport à Bernardo, je trouve que tu as raison. En plus, Sénéca aime beaucoup les joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Donc, comme Xavi Simons, qui peut jouer, voilà, on le sait, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer un peu plus en attaque, il peut jouer un peu partout comme Bernardo. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme ça. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Tonton, qu'il faut aller recruter un autre meneur de jeu.
Il y a un truc qui me fait assez peur avec cette nouvelle direction par rapport à la saison prochaine, c'est l'importance qu'il pourrait donner à Warren Zaïre-Emery, sa future prolongation de contrat. Je crois qu'on est sur quelque chose d'assez délirant et de très inquiétant même. Je veux bien qu'on essaie de canasser un talent qui peut devenir un des meilleurs au monde à son poste. Néanmoins, moi, l'année prochaine, Warren Zaïre-Emery, il est sous concurrence et il n'y a pas à discuter avec ça. Hein. Quitte à ce que ça devienne un joueur de rotation, si tu n'es pas au niveau, tu n'es pas au niveau. Et d'autant plus que je l'avais dit dès le début de la saison, des joueurs de 17 ans n'ont pas à jouer autant de matchs en championnat et en Ligue des Champions. Quand bien même ils nous sauvent face au Borussia Dortmund, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais quand on voit ce qui se passe avec Pedri, comment il est usé physiquement, comment il est mal utilisé et comment il est mal géré par le staff médical et par l'équipe des dirigeants. Moi, Warren Zaïre-Emery, la saison prochaine, tu es mis sous concurrence, garçon. Parce que tu n'en as que 18 ans aujourd'hui. Tu n'es pas forcément le joueur qui va être celui qui nous rapportera la Ligue des Champions dès demain, même si on ne sait jamais, dans 6 mois, ça se trouve, il me donnera tort. Mais pour moi, il faut absolument mettre dans de bonnes dispositions le milieu de terrain et avoir un contingent de 5-6 joueurs de très bonne qualité au milieu de terrain. Et derrière, tu te dis, Warren Zaïre-Emery, tu progresses. On va te donner le temps de jeu qu'il te faut pour pouvoir progresser et pour pouvoir prendre du muscle. Quand bien même on peut comprendre et voir que Warren Zaïre-Emery, pour un mec de 18 ans, c'est une anomalie physique. C'est pas normal qu'il arrive à faire tomber des personnes de 28, 29 ans alors que son corps n'est pas terminé. Il faut quand même le rappeler. Hein, s'il n'est pas encore fini, ça se trouve, il va encore grandir. Hein. C'était pareil pour Kylian Mbappé. Hein. Mbappé, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il a grandi entre-temps et il a pris un peu de la masse musculaire. Donc voilà, Warren Zaïre-Emery, il faut prendre du temps. Si jamais les révélations qui auraient pu être faites face à son compte, avec son contrat s'avèrent être vraies, je pense que la direction que peut prendre le club pourrait être intéressante et il peut y avoir une épée de Damoclès derrière.
Il ne faut pas prendre que des jeunes joueurs, il faut aussi avoir des joueurs
expérimentés. Alors ça, c'est un sujet qu'on a abordé hier déjà, les gars. Alors j'ai été poli, j'ai laissé finir Soura, tu vois, je n'allais pas lui couper en disant « fallait être là hier », tu vois. Mais dans l'esprit, c'est un peu ça. Mais bon, du coup, je vois qu'on a quand même abordé les sujets, fait le tour. Ben, pour le reste, je vais éviter de reproduire le live qui a déjà été fait hier avec Gato, Basto et Recoba et revenir sur les sujets qu'on a déjà fait. En tout cas, merci à tous d'avoir été parmi nous. Je vous donne rendez-vous dès mercredi pour le live du mercredi à midi. Oui, on ne fait plus le mardi maintenant, c'est le mercredi. En tout cas, merci à tous d'avoir participé au live, que ce soit Soura, que ce soit Milan, que ce soit Gato, que ce soit également les 608 personnes que je vois actuellement dans le chat. D'ailleurs, avant de partir, n'hésitez surtout pas à mettre un maximum de likes pour nous aider à nous développer et pour le référencement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci à tous en tout cas d'avoir été là et n'oubliez pas, ici c'est Paris.